Espace 2. La vie côté culture. La vie côté culture. Espace 2. Jean-Marc Falcambello.
Château d'Oron, 10 mai 2007, 10h du matin.
20 000 lieues
sur la Terre.
Nous sommes au château d'Oron par un temps absolument magnifique. Nous pouvons profiter aujourd'hui des dents du Midi, du Mont Blanc, des Alpes de Savoie et puis tout à gauche du Molaison.
C'est quand même beau de se trouver ici, André Lecher, c'est fantastique. Puis alors, ça, c'est la craie du Molaison.
C'est la craie du Molaison qui a. On constate que toute la neige a fondu ces derniers jours, ce qui n'est pas encore le cas des dents du Midi. Puis autrement, on surplombe la vallée de la Broye. Avec le mont Pèlerin juste en face. Là.
Mais c'est voulu, bien sûr, forcément voulu, de mettre en château à cet endroit-là. Mais ce qui surprend en venant, par exemple, du côté de Lausanne, c'est qu'on a l'impression d'arriver dans un creux. Puis après, on découvre avec bonheur qu'on arrive un peu au sommet. Mais au départ, on se dit, mais c'est pas possible, il va pas y avoir un château dans le fond. On le cherche, on le voit pas. Donc, quelle est l'histoire de cette situation ?
Alors, cette situation remonte à l'époque romaine. Les voies romaines d'Italie pour aller en Allemagne, eh bien, passaient par la vallée de la Broye. Puis ensuite, au Moyen-Âge, les petits seigneurs se sont construits un château pour contrôler cette route. Donc, si on commence, ben, vous avez Chillon en bas. Ensuite, vous remontez, vous avez le Châtelard, vous avez Atalens, vous aviez Boissonnance, Palaisieux, Oran, Rue, Lucent, Moudon. Enfin, il y a toute une série de châteaux à peu près tous les 3-4 kilomètres. Certains sont en ruine maintenant. Palaisieux est en ruine, Boissonnance aussi, mais Oran, lui, a traversé ses 8 siècles d'existence avec une grande chance, puisqu'il a toujours été habité. Ce qu'il y a de fascinant, c'est qu'il y a toujours des gens qui se sont occupés de ce château et ont fait tout ce qu'il fallait pour qu'on y soit là aujourd'hui.
Traverser 8 siècles d'existence, du coup, on a l'impression d'avoir une vieille peau. Imaginez justement que l'on soit soi-même Le château qui raconte, sorte de personnage sans âme, pas si sûr. Personnage en tout cas, qui marque le temps, personnage qui se souvient. Le château d'Oron, c'est un peu cela. Et André Lecher, qui nous accompagne pour ce 20 000 lieues sur la Terre, lui prête sa voix à ce personnage. Un château qui se souvient de tous ces personnages qui auront habité ses murs, qui auront parcouru ses couloirs, qui auront ouvert les portes. Certains y seront peut-être morts. Un château, personnage, témoin d'une histoire, témoin d'une région. Un château, corps de pierre, passant de main en main.
Et puis on arrive en 1555, le comte Michel Gruyère fait faillite. Et puis, ses créanciers se partagent ses biens. Les créanciers, c'est principalement Fribourg et Berne. Et puis, par hasard, ici, ça a été racheté par Berne, à peu près 20 ans après la conquête du pays de Vaud par Berne. L'idée de Berne, c'était d'en faire un bailliage, hein, puisque le reste du canton était administré par des baillis, et puis les terres d'Oron étaient assez vastes. C'était un bailliage de 3e ou 4e catégorie, donc quand même un petit bailliage, mais qui rapportait quand même quelques sommes. Et le comte Michel de Gruyère devait de l'argent à Berne. Donc c'est comme si aujourd'hui vous faites faillite, ma foi, les créanciers se partagent les biens qui restent. Et c'est là que je dis que le hasard est intervenu, parce que si Berne n'avait pas racheté ça, on serait peut-être fribourgeois, et puis la région d'Oron serait fribourgeoise. Et si Berne n'avait pas acheté ça, il n'y aurait pas eu de bailli ici, et le château n'aurait peut-être pas été aussi bien entretenu qu'il l'a été pendant cette période bernoise. Parce qu'elle a été longue, cette période bernoise, jusqu'en 1798, mais les Bernois ont fait beaucoup pour que ce château reste habitable.
Alors, on va commencer notre petite promenade, mais tout en marchant, moi j'ai aussi envie qu'on aborde justement, quand vous dites la passion des châteaux, il faut qu'on aborde aussi un bout de votre histoire à vous, parce que vous habitez Oron, André Lecher, et puis bon, voilà, pour certains, ils connaîtront le site Suisse Castel, dont vous êtes l'animateur, ça fait 10 ans déjà que ça existe, Suisse Castel, et puis c'est l'expression même de votre passion, on peut presque dire dévorante pour les châteaux. Avec votre petit pipère avion, vous survolez la Suisse, puis vous faites des photos de tous les châteaux possibles et imaginables. Donc, ça vous vient comment ? C'est le fait d'habiter à côté depuis tout gosse, et puis vous vous dites, c'est pas possible, c'est un vrai mystère, là, à côté de ma porte ?
Oui, je pense qu'on peut dire que je suis tombé dans la marmite, comme d'autres, depuis tout petit, quoi. Et en fait, là, Quand j'étais enfant, je voyais ce château. De temps en temps, on venait s'y amuser avec des camarades. Et puis le déclic, ça a été l'époque de mes études au gymnase où je passais mes week-ends à guider les visiteurs.
Ah, vous le faisiez comme emploi à côté pour financer
d'étudiant. Voilà. Oui.
Alors vous guidiez, alors vous appreniez en même temps.
Alors j'apprenais beaucoup parce que souvent on avait affaire à des connaisseurs de châteaux. Il y a certaines visites où j'ai laissé les visiteurs guider parce qu'ils en savaient plus que moi. Et là, petit à petit, on apprend énormément. Et puis en tant que jeune étudiant, de devoir se forcer à parler à un public inconnu, c'est très formateur.
On va dans quelle direction, là, André Lecher,
en gros ? On va aller vers la direction de l'ancien pont-levis, la cour intérieure, et nous montrons dans l'appartement des seigneurs.
D'accord.
Alors, je vais remettre la protection. Pour éviter les accidents, parce que,
bien sûr,
comme vous avez remarqué, l'escalier n'est pas très pratique pour le moment.
Alors, on repasse la porte, alors la belle grande porte. Hein. Tout de même, là, il y a une vision qui s'impose, qui est remarquable. C'est la porte d'entrée qui donne sur une cour avec une lumière très particulière.
Alors, la lumière est très particulière, vous le verrez dans un petit instant. C'est que nous avons installé, il y a une trentaine d'années, une couverture assez horrible en matière synthétique qui empêche que la pluie et le mauvais temps entrent dans cette cour, ce qui nous permet de l'utiliser pour les manifestations. Mm-hmm. Mais je peux déjà vous dire qu'en janvier 2008, si tout va bien, cette couverture sera remplacée par une couverture en verre, transparente, ce qui permettra de revoir le donjon, les toitures, et nous aurons une lumière un peu plus naturelle quand même.
Parce qu'à part ça, c'est quand même assez sympathique, cette lumière, on se demande où on arrive. Ah mais c'est beau là, attendez voir, mais là, une sorte de grand hall.
Une avant-cour, une première cour. Autrefois, il y avait un puits.
Là, sur cet espace rond.
Cet espace rond, le puits existe toujours là-dessous. Mm-hmm. Mais effectivement, on a mis un couvercle de manière à pouvoir utiliser cet espace. Et, vous pouvez voir les poutraisons qui sont effectivement extrêmement anciennes. Ça date du début du château.
Et là, quand vous dites début du château?
Alors, on est au 12e, 13e siècle.
12e, 13e. Donc, ça veut dire qu'il avait cet aspect-là, il avait été pensé avec cette avant-cour.
Avec cette avant-cour, avec un peu moins de bâtiments dans le fond, parce que le donjon était séparé du reste. Mais disons que ce château a quand même été beaucoup transformé, jusque vers 1640. Ensuite, l'aspect est assez l'aspect actuel, quoi.
Peut-être un mot sur les différents propriétaires, parce que qui dit construction et qui dit transformation du château dit aussi souvent forte tête, personnalité marquante, qui eux ont des impulsions, qui trouvent les moyens, qui décident de tout changer. Alors, quels sont peut-être, en gros, parce qu'il sera difficile de faire la galerie détaillée de tous les personnages de ce château, mais il y a peut-être comme ça des images, ou plutôt des personnages qui marquent l'histoire du château d'Oron.
Alors je dirais que le personnage qui a probablement le plus marqué l'histoire du château, c'est le père du dernier propriétaire, Adolphe Geiff, qui a donc acheté ce château en 1871. C'était un diplomate, un journaliste, un homme surdoué qui, effectivement, a joué un rôle assez important, en particulier dans l'accueil de l'armée Bourbaki, qui avait donc perdu en France et qui avait été accueilli en Suisse. Et une bonne partie des soldats ont été accueillis ici également. Mais la chance de ce château, c'est que quand son fils l'a vendu, donc Daniel Geiff, quand il l'a vendu, c'est qu'il l'a vendu avec tout le contenu qui avait été assemblé par son père. Et si on a la chance d'avoir un château meublé avec une bibliothèque absolument fantastique, on le doit à Geiff.
Et c'est-à-dire que Adolf Geiff a le souci du patrimoine ?
En tout cas, oui, parce qu'il a aussi entretenu ce château pendant 34 ans. Puisque c'est en 1904 qu'il a été remis à son fils. Donc pendant 34 ans, il a quand même fait des travaux dans ce château au 19e siècle, oui.
Mais est-ce qu'il se joue châtelain ? Est-ce qu'il s'imagine l'être ? Est-ce qu'il prend cette place aux yeux de ses concitoyens ?
Il venait ici essentiellement en été. En hiver, il était à Paris, donc c'était une résidence secondaire. Donc il ne jouait probablement pas le rôle de châtelain dans ce château. C'était un Français qui venait passer l'été ici.
Alors, est-ce qu'il ramène aussi des pièces de grande valeur ? Est-ce qu'il décide de l'embellir, ce château ?
Alors, la pièce de grande valeur qu'il nous a léguée, c'est effectivement les livres. Enfin, ce sont les livres, la bibliothèque. Autrement, il y a un mobilier, quelques belles pièces de mobilier, mais à côté de la bibliothèque, tout le reste paraît bien pâle.
Donc on pourrait dire que la bibliothèque, c'est le trésor du château d'Oron.
C'est le trésor du château d'Oron. Vous en verrez point comme celle-ci dans d'autres châteaux.
Je me réjouis déjà. Ok. Alors, poursuivons notre route. André Le Cher, on passe à côté de la fontaine avec des magnifiques fleurs qui l'ornent. C'est très beau. Je vous suis.
Alors, je vais devoir débrancher le système d'alarme.
Ok, je vous laisse faire.
Juste que je retrouve.
Voilà. Puis on y voit des petits panneaux. Prière de ne pas fumer. Prochaine visite à partir de 14h. Appelez le guide. Et puis une petite sonnette sur laquelle on peut appuyer pour que l'on vienne nous chercher.
C'est bon.
Voilà. C'est remarquable d'arriver là-dedans, dans le château.
Ce grand hall, donc rajouté par les Bernois vers le XVIIe siècle. Et au fond, ce mur arrondi, c'est le donjon.
C'est superbe cet endroit.
Magnifique. Là, on a un grand souvenir des Bernois, avec le tableau qui contient les armoiries de toutes ces familles bernoises qui se succédaient de 6 ans en 6 ans. Jusqu'à la Révolution vaudoise en 1798.
Tous les baillis.
Tous les baillis. Et si vous regardez ce tableau, vous voyez qu'il est à moitié vide. Et les plaisantins disent qu'ils étaient quand même assez optimistes.
Ça, c'est clair. Parce qu'il est vraiment à moitié vide et très exactement à moitié vide.
Oui, oui. Ils avaient prévu un demi-millénaire.
Et puis, alors, chose étonnante, c'est peut-être vraiment un détail, mais un sanglier empaillé, qui a une drôle de tête. Et pourquoi ?
La famille Guyff, c'était des chasseurs.
Ah, voilà. Donc ça a son sens.
Ça a son sens. C'est peut-être un sanglier de la région qui a mal fini.
Très beau sol, hein ?
Des catelles.
On appelle ça des catelles ou des tomettes ?
Des tomettes, oui. Qui bougent un peu. Et de temps en temps, on reprend les enfants qui me les enlèvent en leur disant « Mais regardez avec les yeux, pas avec les mains. »
Oui, bien sûr. C'est vraiment un bel endroit. C'est toujours très apaisant de se retrouver dans ces grandes pièces, il y a de l'espace.
Et puis effectivement, on visitera un appartement, c'est ce que j'aime bien dire. Ce n'est pas un musée, c'est un appartement. Donc on
Dès lors que nous sommes ici.
Nous sommes dans l'appartement ici, des seigneurs. Je veux dire, si M. Guyff revenait ici, il ne serait pas perdu, quoi. Il retrouverait son mobilier.
Et lui, il rentrait par là où nous sommes rentrés.
Il rentrait par là. Et j'ai eu l'occasion, il y a quelques mois, de faire connaissance avec une dame qui a maintenant 8 ou 9 ans et qui a été la dernière femme de chambre du château les 6 derniers mois de 1936.
C'est extraordinaire.
Alors, c'est absolument fantastique. Alors, elle a quelques souvenirs. Elle habite dans une chambre au-dessus de la galerie que nous voyons ici. Et puis, elle raconte qu'au printemps, le château, vous savez, il est relativement froid parce que... Il ne s'était pas chauffé tout l'hiver. Alors, elle se chauffait avec le poêle en faïence, en mettant du bois dans le fourneau. Et puis, comme le fourneau était ancien, plein de fissures, elle colmatait les fissures avec du papier de journal pour ne pas avoir trop de fumée dans la chambre. Et puis, en 1936, il n'y avait pas d'électricité dans ce château. Donc, elle se promenait dans ce château avec des bougies ou des lampes à pétrole. Et puis, pour l'aider dans son travail de femme de chambre, il y avait encore une cuisinière... Et puis un homme à tout faire, un concierge. Quoi.
Et elle avait quel âge ?
À l'époque, elle avait 19 ans.
Incroyable. Très bien. Alors là, nous montons 3 marches en bois.
Oui,
oula,
ça
grince magnifiquement, là. Oh, mais c'est superbe. Oh, mais alors, André Le Cher, vous m'emmenez où ? C'est fantastique, ça.
Là, c'est dans la cuisine.
C'est superbe, ce sol.
Ce sol en molasse, usé par les... milliers de pas qui ont passé par là.
Alors sérieusement usé, alors là on a marché là-dessus. Hein.
Quand c'est à l'intérieur, ça gêne pas trop l'usure, mais vous avez remarqué les murs de jardin, c'est aussi en molasse. Et là régulièrement il faut changer les pierres, les encadrements de fenêtres sont également en molasse. Et puis ça tombe sur nous, le changement des pierres.
Bien sûr. Alors, cuisine à l'ancienne, vous voulez dire que, par exemple, Adolf Guyff, il faisait sa cuisine. Il ne la faisait pas lui, mais on la faisait pour lui ici, sur un fourneau à l'ancienne, c'est-à-dire au fourneau, sur un foyer.
Alors, on a des photos de l'époque où on voit qu'à droite, ici, il y avait un potager à bois.
Quand même.
Hein. Ouais. Donc, il y avait un petit potager, comme on les voit dans ces images, avec 4 trous et le feu, puisqu'il n'y avait pas d'électricité. Et puis ensuite, vous chercherez peut-être l'eau courante, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas d'eau courante à cet étage. Ça veut dire que la cuisinière se coltinait les bidons d'eau depuis la cour, depuis la fontaine de la cour.
Depuis la fontaine ou depuis le puits ?
Non, depuis la fontaine. Le puits était comblé déjà depuis fort longtemps. Ouais. Et puis, elle cuisinait ici. Pour l'évacuation de l'eau, c'est beaucoup plus simple, par contre, si vous approchez de la fenêtre.
On va voir. D'accord. À côté de la fenêtre, une magnifique pierre qui fait office d'évier avec
un trou.
Et puis ça part dans la nature.
Ça coule le long du mur. Après, ça va dans le flanc, puisqu'au fond, c'est la rivière qui s'appelle le flanc.
Qui va jusqu'à Lausanne, alors ?
Ah non, c'est pas le flanc de Lausanne. Ça, c'est le flanc qui s'arrête en bas à Châtillon, qui va dans la Broye. Mm-hmm. Puis vous savez que la Broye, elle va en Suisse allemande. Et ensuite, tout ça, ça part en Hollande. Donc, en fait, toutes les eaux usées d'Oran partent en Hollande, quoi. Enfin, après retraitement actuellement, mais autrefois...
En passant peut-être par Berne ou pas ?
En passant par... Non, ça passe par les lacs, par l'Arre en fait. Donc le nord, les lacs de Morat, Neuchâtel. Enfin, il faudrait qu'une fois que je suive le trajet. Mais en tout cas, ça passe par Bâle et ensuite ça suit le Rhin.
D'accord. Très bien. Et tout ça, bien sûr...
À force de m'habiter, vous savez comment c'est. On a voulu me changer. Alors les anciens propriétaires, disons, ceux qui étaient encore bernois, avant qu'il y ait la Révolution, ont décidé de me donner une allure du temps, à la mode, en vogue. Nous étions là au XVIIIe siècle. Et donc, on a refait les murs, on a peint des boiseries, on a imaginé des boîtes dans les boîtes. Et je me suis retrouvé, moi, le château, à être habité de l'intérieur par un tout nouveau monde, par un nouveau siècle aussi, une autre façon de vivre dans mes entrailles, au sein de mes anciennes murailles. Murailles qui, d'ailleurs, servaient de moins en moins. Les derniers baillis bernois, vers 1750, m'ont donné le coup de grâce. Ce que j'avais en moi, d'un reste de Moyen-Âge, a disparu. Sous la couleur pastel de ces nouveaux murs, de ces boiseries ouvragées, de cet ensemble et cet univers 18e siècle, qui se répandait comme une traînée de poudre dans toutes les grandes bâtisses de l'Europe d'alors.
Alors, après la cuisine, bien, vous devinez tout de suite la pièce qui suit.
Bien sûr, le salon.
Le salon, la salle à manger.
Voilà. Qu'on appelait la chambre aussi ou pas ? On sait pas.
Ça, on ne sait pas, mais les Bernois parlaient facilement de Timor dans leurs archives.
Ouais. Belle pièce, hein, superbe.
Alors là, on voit le saut par rapport à la cuisine, donc le XVIIIe siècle, avec toutes les caractéristiques de cette époque.
Que vous décriveriez comment, justement, ces caractéristiques ?
On peut commencer par ce poêle en faïence qui a remplacé les cheminées. Donc les poêles d'Oran sont faits par la famille Poyon de Lausanne, vers 1750. C'est comme un chauffage central, puisque depuis ici, on n'accède pas au feu, donc on n'a pas de cendres, pas de poussière, pas de fumée, normalement. Ces poêles sont toujours alimentés depuis derrière, depuis l'autre pièce, depuis un corridor de service. Il faut simplement une personne à disposition pour mettre les bûches à l'intérieur du poêle.
Donc ça veut dire aussi, bien sûr, qu'à l'époque, on vit avec des serviteurs. Ça, c'est évident. En tout cas, pour une famille comme celle-ci.
Ça, c'est évident. Et on estime que la consommation de bois d'un château comme ça, en une année, c'est 400 stères. Une villa, vous la chauffez avec une dizaine de stères.
Oh, c'est énorme, quand même.
Alors, imaginez le bûcheron qui coupe 400 stères avec les moyens de l'époque. Et puis celui qui les transporte, et celui qui vide les cendres, etc. Quoi. Dans les autres améliorations du XVIIIe siècle, eh bien, c'est la couverture des murs de pierre par des boiseries et installation d'armoires encastrées. Très pratique.
Et c'est vrai qu'ici, tout à fait, donc ici, bien sûr, des boiseries partout. Donc on est dans une pièce assez carrée, de couleur, on va dire, vous diriez quoi, vous ? Jaune, c'est pas vraiment jaune, beige,
jaune, ocre, clair, très clair.
Voilà, ocre clair, peut-être dire ça comme ça. Et puis donc, des boiseries, un plafond qui me semble pas trop haut, j'aurais pensé l'imaginer ou le voir plus grand, plus haut.
Alors ça fait partie de ces transformations du 18e, le plafond était abaissé d'un mètre. Dans le salon de musique, on le verra mieux. Et dans la bibliothèque, où ça n'a pas été rabaissé, vous aurez la bonne impression de plafond moyenâgeux.
D'accord.
Donc, c'est pour rendre plus confortable. On chauffe plus facilement un plafond. Bon, on n'est pas à 2,50 m, on est quand même à 4 mètres pratiquement.
Oui, c'est sûr. Bon, ouais, c'est vrai qu'on n'est pas dans le HLM, on est bien d'accord. Non, c'est spacieux, c'est beau, c'est grand, c'est fantastique. Mais alors, par contre, petite remarque, mais presque évidente, c'est qu'à l'époque, alors, 18e, on construit une boîte à l'intérieur de la boîte. C'est, oui. c'est assez oui, oui. marrant comme manière de faire. On ne pense pas construire de vrais murs, réagencer les pièces, casser les plafonds, parce qu'on pourrait imaginer une transformation totale, comme on le ferait aujourd'hui. On garderait une structure extérieure, tandis que là, non, on construit à l'intérieur.
On construit à l'intérieur, et dans un autre salon, on a vu que le plafond ancien était encore au-dessus, avec les peintures murales sur les murs. Enfin, dans le salon musique, je vous en reparlerai.
Ah, intéressant. Très bien, eh ben, allons-y. Voilà.
Dans les autres travaux du 18e, il y a eu l'agrandissement des fenêtres, puisque les meurtrières n'avaient plus de raison d'être. Et nous sommes dans la salle à manger, je vous ai dit.
Oh là 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 là. La vaisselle. Mais c'est remarquable.
Alors voilà la vaisselle de fête de la famille Gaïf.
Et c'est leur vaisselle de fête.
C'est leur vaisselle de fête, dans l'armoire faite pour la vaisselle. Et nous avons là plusieurs genres de services, du Sèvres, du Wedgwood, du Limoges. Les petites tasses à café et à thé ici en bas.
C'est un trésor en soi, ça.
Oui, oui, c'est vrai que ça fait partie justement de ce qu'on monte dans un appartement, la belle vaisselle.
Mais, petite indiscrétion, mais quand une association décide de devenir propriétaire en 1936 d'un château comme celui-ci, comment fait-elle? Alors, est-ce qu'on brade à l'époque et on dit prière de vous occuper de ce dont on n'a plus envie de s'occuper, puis on donne un franc symbolique, puis on acquiert le tout? Ou alors est-ce qu'on dépense une fortune colossale, puis dans ce cas-là on fait appel à un mécène? Comment ça se passe? Parce que vous ouvrez une armoire, c'est un trésor de porcelaine, et j'imagine qu'il doit y en avoir pas mal. Donc c'est une fortune.
Alors, j'allais venir à l'histoire de l'achat du château, mais ça commence en 1932. Daniel Gaïf, n'arrivant plus à entretenir ce château, décide de le mettre en vente. Il le propose au canton de Vaud pour 250 000 francs, avec le contenu.
C'est beaucoup à l'époque?
C'est l'équivalent de 3 belles maisons, avec terre, quoi.
C'est pas grand-chose.
C'est pas grand-chose, mais un château, je dirais qu'on me le donnerait, que j'hésiterais à l'accepter, vu les frais d'entretien, quoi. Mmh. Et en 1934, une association est créée par des gens de la région dans le but d'acheter ce château. Parce que les gens de la région tenaient à ce que ce château ne parte pas dans des mains étrangères, de gens qui le videraient, qui en feraient on ne sait pas quoi. Donc là, quelques personnes vraiment courageuses ont décidé de former une association. Et puis ensuite, le gros problème, c'était de trouver des fonds. Il leur a fallu 2 ans pour trouver les fonds nécessaires à l'achat du château en organisant d'une part une grande loterie, avec un grand premier lot. Donc là, ils ont réussi à rassembler à peu près 100 000 francs grâce à cette loterie. Ensuite, ils ont écrit à toutes les communes. Certaines ont donné 5 francs, certaines en ont donné plus, certaines n'ont donné rien. Et puis, parallèlement à toute cette recherche de fonds, eh bien, ils sont intervenus auprès de Daniel Gaïf pour qu'il baisse son prix. Et c'est ainsi qu'en 1936, ce château était acheté pour 140 000 francs.
Oh là là.
Avec tout le contenu.
Il baisse de 90 000 francs.
Il baisse de 90 000, oui, parce que lui aussi, il se dit il vaut mieux le vendre à des gens qui s'en occuperont, comme ça le patrimoine de son papa reste dans ce château. Donc, parce qu'il tenait aussi à ce que ça reste. Lui, il faisait déjà visiter son château.
Ah, quand même.
Oui, oui. Et puis alors, en 1938, l'association décide de le donner en cadeau au canton de Vaud, qui refuse le cadeau.
Alors là, on ne comprend plus, là.
Mais toujours pour les mêmes raisons.
À cause de l'entretien?
À cause de l'entretien. Et c'est ainsi que depuis plus de 70 ans, nous sommes toujours propriétaires d'un château. Et l'entretien, nous l'avons. Donc je peux vous dire, ça chiffre par millions depuis le début. Quoi.
Ah ben ça c'est sûr. Oui.
Mais c'est géré avec un comité de bénévoles passionnés par ça. Et c'est une très belle aventure, je vous assure.
Ça c'est clair. D'autant plus intéressante qu'il continue depuis autant de temps, ça veut dire qu'il y a quelque chose de générationnel dans cette passion-là. Est-ce que l'on a vu des membres de père en fils ou de mère en fille s'intéresser à cette histoire-là?
Alors, nous avons eu le grand-père, la fille, et maintenant nous avons la petite-fille dans le comité.
D'accord.
Oui, donc il y a des choses qui se transmettent comme ça. Et puis régulièrement, il y a des gens de l'extérieur qui viennent et qui se passionnent à leur tour. Et donc, dans le comité, nous sommes 9 personnes. Un bureau s'occupe des affaires courantes, donc c'est le président, moi-même et l'architecte. Et puis à part cela, nous avons 1 millier de membres dans l'association.
tout de même.
Qui paye une cotisation annuelle relativement modique de 40 francs par année.
C'est augmenté par rapport aux 2 francs initiaux. Hein.
Voilà, mais dites-vous que pour 40 francs par année, vous êtes copropriétaire d'un château quand même. Hein.
Avis aux amateurs.
Oui, oui, alors venez sans autre. Chaque franc compte.
C'est vrai que d'être copropriétaire d'un château, c'est quand même magnifique. Ah, et à part ça, on franchit une porte et on arrive dans une magnifique pièce bleue. Alors de nouveau, au 18e... pas le fourneau, le poêle, comment on dit ça?
Nous on dit un poêle.
Un poêle en faïence. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur chacune des faïences. En tout cas, je me rappelle celui qu'on vient de voir, qui était remarquable. Celui-ci a l'air de l'être aussi. Alors, une chambre de femme, je dirais. Je me trompe?
Oh, pas du tout. C'est la chambre que nous appelons d'ailleurs la chambre Alice Paculier-Gaïf. C'était la dernière châtelaine, qui était une artiste peintre, aquarelle et surtout miniature. Des petits portraits fidèles.
Super, bon, on les regarde un peu.
On va les voir de près, là, au-dessus du miroir.
Miroir, boudoir.
C'est comme une photo couleur. Et... Bon, le reste des œuvres, on peut les voir en France, au musée de Chalon-sur-Saône. Et vous parliez des décors des poêles tout à l'heure. Celui-ci, c'est des fables de La Fontaine. L'autre, c'était plutôt les voyages asiatiques. Et là, si on regarde un peu près, on peut voir des renards, on peut voir des cigognes. Des corbeaux qui ressemblent à des coqs, mais enfin, les spécialistes des fables de La Fontaine pourront raconter une histoire par Catel, probablement.
Il y aurait des choses à dire. Hein. Mais vous, André Le Cher, parce que vous l'expliquiez avant, donc quand vous êtes étudiant, vous faites visiter le château. Votre passion, justement, ça semble le détail là, de parler des faïences, mais peut-être pas. Ça veut dire que votre passion, elle va jusqu'où? Vous vous mettez à décrypter la totalité, à vouloir comprendre, à vous dire, mais tiens, mais pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Vous vous renseignez comment? Vous allez demander à des gens, vous lisez. Qu'est-ce qu'on en sait à l'époque aussi? Qui vous enseigne?
Celui qui m'avait enseigné quand j'étais gymnasien, c'était l'ancien gardien, enfin le guide de l'époque. Donc il y a beaucoup de choses qui se transmettent oralement. Chose que j'ai mise par écrit depuis, parce qu'évidemment, on a aussi actuellement un jeune étudiant qui se trouve être mon neveu, hein, pour vous dire que l'histoire de famille continue. Mon neveu fait les visites guidées le week-end avec une autre guide. Donc, j'ai dû mettre par écrit un certain nombre de renseignements, mais avant, c'était beaucoup de l'oral. Quoi.
Beaucoup de l'oral. Donc, je pense que ce gardien qui vous transmet les choses, c'est peut-être aussi un personnage, lui.
Alors, lui, c'est incroyable. Quoi. Lui, c'est comme s'il avait construit le château. Quoi.
Génial, vous apprenez tout.
Il se mettait dans la place de quand il racontait, c'était absolument fantastique. Quoi.
Ah, vous avez un souvenir merveilleux de ça.
Oui,
quoi.
Oui, absolument.
Ça, j'imagine. Là, je vois une photo.
Alors, c'est madame, la dernière châtelaine, Alice Paculier-Gaïf.
Décrivez-moi cette photo, c'est qui ce personnage? On dirait, bien sûr, les années folles.
C'est les années folles, avec un bandeau dans les cheveux, un air très mélancolique. Une artiste. Mais effectivement, son air est mélancolique. On a d'autres photos d'elle où elle est plus souriante quand même.
Le timbre de sa voix résonne encore dans mes murs. Je vous l'assure, je l'entends encore. Elle avait cette voix assez particulière d'une grande dame du monde, une Parisienne. Il n'y avait dans sa bouche que des mots choisis, que des propos mesurés. Une artiste, c'est vrai. Mélancolique, c'est sûr. Pensez donc, quand elle parlait de Paris, moi-même, pourtant ne l'ayant jamais vue, je pouvais comprendre combien l'ennui pouvait être grand.
Ça, j'imagine. À part ça, on peut avoir cette photo, imaginer les descentes en ville d'Oron de, on va dire, la Châtelaine.
En calèche. Bien sûr.
Oh là là. Et puis, c'était une dame de Paris.
Oui, une dame de Paris qui a quand même pas mal voyagé avec son mari. Je crois que derrière une des photos, on voit New York. Donc, elles sont quand même allées en Amérique.
Alors, on passe une autre porte, bien sûr. C'est un dédale, c'est une évidence, mais c'est un dédale, un château.
C'est un dédale, mais le plan du château est relativement facile à comprendre au bout d'un moment, parce qu'on tourne autour de la cour intérieure, tout ça.
Ah, d'accord. Ok, c'est ça l'axe.
C'est ça l'axe, oui.
Ok. On devine déjà un peu des livres hein, dans le couloir qu'on laisse, mais on en parlera. Oulala. Alors là, forcément que la vision me coupe la parole. Mais c'est splendide, André Le Cher. On arrive dans la bibliothèque.
Oui, vous avez bien vu, là.
Ah ouais, ça, c'est sûr.
C'est une des grandes bibliothèques dans les châteaux en Europe. Dans tout le château, puisque les gens aiment bien les chiffres, combien avez-vous de livres? Eh bien, dans tout le château, nous avons environ 20 000 livres anciens. Dans cette pièce, à peu près 12 000. Les autres sont dans les corridors ou dans un autre dépôt du château.
Ça voulait dire, ou ça veut dire, qu'Adolf Geif était un fou lecteur, passionné, homme de lettres.
Un fou collectionneur de livres.
Ah, ou collectionneur.
Collectionneur de livres, parce que un petit calcul vous montre que si vous voulez en lire 20 000, supposez que vous en lisiez un par jour, c'est 60 ans.
Ouais. Bon. D'accord, il faudrait vivre longtemps alors.
Voilà, ou lire vite.
Ou lire très vite. Et tous des ouvrages, bien sûr, qui sont cette logique antérieure, on va dire, au 19e, parce que Adolf Geif, c'est 19e quand même, lui,
oui,
il est 19e.
Oui, hein. Oui, la majorité des livres sont du 18e siècle, quelques-uns du 19e, quelques-uns plus anciens, mais ce qui fait la richesse de cette bibliothèque, sa renommée, on peut dire, c'est que nous avons ici une collection unique au monde de tout le genre romanesque entre 1775 et 1815. Ce sont les façade, qui ont donc été publiés à Paris, en très peu d'exemplaires.
Les petits qu'on voit ici.
Les petits qu'on voit là, effectivement. Et de temps en temps, vous voyez un espace, une lacune, quelques livres qui manquent. C'est qu'actuellement, ils sont à Dorigny, à la bibliothèque cantonale, en consultation, ou en voie de scannage, pour que ça donne un DVD que l'on puisse envoyer aux chercheurs qui ne peuvent pas venir à Lausanne. Quoi.
D'accord. La
bibliothèque est donc utilisée par les chercheurs. Quoi.
Mais est-ce qu'on peut s'approcher des livres, là? On va passer les barrières, on en profite, nous on a le droit.
Nous on a le droit.
Voilà, donc on fait des choses que les autres n'ont pas le droit, mais qu'est-ce que c'est bien, parce que ça nous permet d'arriver juste à côté du livre que vous prenez.
Je vous prends La princesse de Nevers. Bibliothèque de Monsieur, Son Excellence Monsieur le Comte François Potocki. Et là, nous avons un livre de 1812, La princesse de Nevers ou Mémoire du sire de la Touraille, lesquels peuvent servir de conseil aux jeunes gentilhommes dans les villes cours et armées. Et vous voyez l'état de ce livre, c'est comme s'il sortait de presse.
Bien sûr, superbe. À l'époque, le papier, de façon, est remarquable.
Alors, le papier, c'est notre chance, c'est qu'on a des livres anciens avec un papier qui ne se dégrade pas avec l'acidité du bois.
Ce qui n'est pas le cas du papier d'aujourd'hui,
non.
Ça, c'est certain. Puis alors, bien sûr, une reliure magnifique du cuir, bien sûr rehaussée de filets d'or, c'est superbe.
Et si on se déplace un petit peu du côté des grands livres, donc à part les romans, nous avons des encyclopédies des métiers, des livres de droit, des dictionnaires.
Et bien sûr, certainement l'encyclopédie Diderot.
Oui, bien sûr, elle est là.
Elle est là.
Avec les volumes de texte, et ce qui est tout à fait intéressant de voir, c'est les volumes de planches.
Oh là 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 là. Quelle beauté ces livres.
C'est un peu lourd, mais...
Et toujours le même...
Le même ex-libris.
Le comte François...
Potocki.
Potocki. Il faudra que vous nous disiez, qui est ce personnage. Alors, recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts mécaniques avec leurs explications. Seconde livraison en deux parties.
C'est une encyclopédie qui était vendue en fascicule. Donc, ça a duré beaucoup d'années, puis les gens les reliaient. Et là, vous voyez, nous tombons sur la chasse, petite chasse et piège, avec un descriptif de toutes les méthodes pour attraper, si c'est les lièvres ou les blaireaux.
Et des remarquables gravures, bien sûr.
Ah ben voilà, le loup qui s'est fait attraper. Avec les pièges. Et voyez ce papier épais.
Quelle beauté. Ah oui, à le prendre en main.
Et imaginez le graveur qui gravait ses planches, sans se tromper, évidemment, parce qu'il y a un trait de travers et vous recommenciez la planche.
C'est absolument splendide.
Voilà, on arrive dans les choses horribles. C'est la chirurgie.
Eh ben.
Sans trop d'anesthésie, mais on va pas décrire ça.
Hein. Oh bien sûr. C'est les planches de médecine, carrément.
Oui.
Mais c'est vrai que d'ailleurs, c'est sûr qu'à ce moment-là, on parlait plus parce que c'est des corps qui sont coupés, c'est des manipulations médicales, bien sûr.
Et voilà le cloutier d'épingle, un métier qui a disparu.
Le cloutier d'épingle, c'est vrai qu'on fait plus carrière aujourd'hui.
Non.
Il y a des choses qui ont changé quand même. Superbe. Peut-être ce que l'on peut dire de cette bibliothèque, c'est sa beauté quand même. Bon, bien sûr, il y a les ouvrages, mais c'est la beauté de cette pièce, c'est la beauté des fenêtres, de la lumière très particulière, peut-être dû aussi à ce lustre, et puis le plafond tout en caisson, en bois, et une pièce qui n'est pas carrée, qui n'est pas octogonale, trapézoïdale, bizarroïde, polygonale. Et puis, bien sûr, la couleur assez, comment dire, constante de ces ouvrages qui sont dans les rouges, qui sont dans les jaunes, qui sont dans les verts, des couleurs chaudes. Là, par exemple, le canapé, qui pourrait être une liseuse, mais ce n'en est peut-être pas une, je ne sais. En tout cas, un beau canapé rouge, velours, 13 années 30 peut-être, j'en sais trop rien, je ne suis pas de loin un spécialiste des meubles, posé assez long, mais les fenêtres et les murs sont tellement épais qu'il y a de la place pour y mettre carrément un canapé, juste qu'on puisse se rendre compte de la dimension. Il était là quand vous arrivez, c'est-à-dire quand en 1936, l'association devient propriétaire du château.
Le canapé n'était pas là, mais il y en avait un autre à la place. Ce canapé est là depuis relativement peu de temps. C'est une vieille dame qui nous a légué ce meuble. Puis je me suis dit, mais où est-ce qu'on va bien le mettre ? Et avec l'intendant, on s'est dit, on va le mettre là. Et depuis, c'est comme s'il avait toujours été là.
On éclaire comment à l'époque ? Parce que là, on y voit deux lampes qui sont peut-être des lampes à pétrole. C'était bien sûr la seule...
C'était le seul éclairage, oui. Voilà. Lampe à pétrole ou bougie ou chandelier, donc pas d'électricité jusqu'en 1936.
Parce que là, si on éteint, la source de lumière naturelle, c'est naturel.
C'est le soleil. Hein. Si j'éteins, ça reste intéressant.
C'est assez sombre quand même. Hein. Bon, on s'y repère, mais c'est assez sombre. Il y a des bibliothèques, bien sûr, sur tous les murs.
Et sur deux rangs,
on ne l'a pas dit, sur deux rangs.
Et ce que je pourrais dire encore, c'est que quand le château a été acheté en 1936 avec la bibliothèque, il y avait des livres jusqu'au plafond, donc encore trois rayons de plus, beaucoup de livres brochés que nous avons mis ailleurs. Les livres n'étaient pas classés par matière, mais par taille. Et puis, il avait mis ensemble à peu près, genre toutes les étiquettes bleues étaient ensemble, toutes les rouges étaient ensemble, donc ça c'était une très jolie unité de style, mais pour retrouver quelque chose, c'était quasiment impossible. Et puis c'est seulement au cours des années 50, 60 et 70 que, petit à petit, les bibliothécaires sont venus travailler ici et qu'on a pris conscience de la valeur de cette bibliothèque.
Ça veut dire qu'on l'ignorait ?
On l'ignorait, et à un moment donné, en 1937-38, il y avait même eu l'idée que la bibliothèque cantonale pourrait racheter ses livres pour 5000 francs. Heureusement que le comité a dit non à l'époque.
Ah oui, heureusement.
Oui, oui.
Parce que ça aurait été vraiment tout le trésor qui part. Quoi.
Le trésor partait, effectivement. Mais c'est un trésor pour le château, mais en même temps c'est une charge, parce que vous imaginez que ces livres, ils doivent être entretenus.
C'est vrai qu'il faut savoir prendre soin de ma richesse. Cela fait la fierté des hommes et leur permet d'exercer leur intelligence. Écoutez ce que Gabriel Péniaud, en 1823, disait du bon choix des livres dans un manuel du bibliophile. Pascal et Corneille ouvrent la carrière du génie. Et une foule d'illustres émules dans tous les genres se précipitent sur leurs pas. Voyez avec quelle grandeur, quelle dignité s'avance dans le sanctuaire des lettres un Bossuet, un Bordaloux, un Fénelon, un La Rochefoucauld et un Crébillon qui lie le grand siècle au siècle suivant. Celui-ci place au premier rang Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau et Buffon. Et si l'on voulait augmenter le nombre de ces auteurs comme modèles, il nous semble que ce ne serait guère que multiplier des échos. Et l'on sait que le propre de l'écho est de répéter les mêmes sons en les affaiblissant. Ainsi, avec 300 ou 400 volumes, on peut se composer la collection la plus précieuse qu'un amateur puisse posséder sans crainte de choquer aucune opinion littéraire. Étrange pensée que celle de Gabriel Péniaud, vous ne trouvez pas ? Quand moi je possède ici à Oran, dans mes entrailles, plusieurs milliers d'ouvrages, comment pourrais-je me satisfaire de quelques centaines à peine de ces beaux livres ?
Peut-être que je dois vous parler un petit peu de la personne qui est à l'origine de cette bibliothèque.
Ah oui, mais volontiers.
Et là, il faut quand même...
Vous prenez vos notes. Et oui, mais c'est très bien, bien sûr.
Juste pour ne pas me tromper dans les dates.
Sûr.
Quoi. Oui. En fait, sur les 20 000 livres que nous avons ici, 6 000 ont été constitués par une princesse polonaise qui est née en 1763 en Pologne, en Lituanie actuellement, à Vilnius.
Et qui s'appelle ?
Et qui s'appelait Elena Apollonia, princesse Mazalska.
D'accord.
Famille extrêmement riche. Elle est devenue orpheline à l'âge de 2 ans et 3 ans, et c'est son oncle, le prince évêque de Vilnius, Ignace Mazalski, qui l'a recueillie. Cet oncle entretenait sur ses fonds personnels une armée de 20 000 hommes, pour vous donner une idée de, bon, de la grandeur de la fortune. Mais il se mêlait de politique, et à un moment donné, il a dû quitter avant de se faire arrêter. Et il est venu à Paris, et en arrivant à Paris avec sa nièce, qui avait 8 ans, il fallait trouver une école. Et il y avait à Paris 2 écoles pour la haute noblesse, c'était l'abbaye au bois qui a été choisie. Et là, la chance que nous avons, c'est que cette princesse, entre 8 ans à 16 ans, a tenu un journal. Et là, elle raconte sa vie de pensionnaire avec ses amis, duchesse de, enfin, vous voyez, toute la noblesse dont je n'ai pas retenu le nom.
Et c'est intéressant.
C'est intéressant parce que c'était une fille qui avait quand même un certain sens de l'humour et de la blague. Et il y en a une que j'aime bien raconter, c'est qu'elle avait remarqué qu'en huilant les gonds de son studio, je dis studio parce qu'il y avait une femme de chambre qui la surveillait, en huilant ses gonds, elle arrivait à ouvrir la porte de son studio sans que ça fasse de bruit. Et une nuit, elles sont sorties, elle a pris une camarade avec elle, avec une bouteille d'encre. Elles se sont dirigées vers l'église du couvent. Elles ont vidé la bouteille d'encre dans le bénitier. Puis après, elles sont reparties dans leur chambre. Et les sœurs, qui s'étaient chargées de l'éducation de ces jeunes filles, ben évidemment, la nuit, elles vont faire leur messe, sans beaucoup d'éclairage, parce qu'elles connaissaient parfaitement les lieux. Alors imaginez la scène, main dans le bénitier, signe de croix, on fait la messe, on revient, ça a peut-être 2 fois dans la nuit, et c'est que le lendemain matin qu'elles se rendent compte qu'elles étaient complètement mâchouées. Donc. Et ça, elle le raconte, parmi d'autres blagues qu'elle faisait. Quoi.
D'accord. Et puis comment ensuite ça lui vient l'idée de faire une collection de 6000 ouvrages tout de même ?
Oh, il y en avait plus que ça.
Plus que ça ?
Nous en avons 6000 ici. Il y en avait plus. Alors après, elle mène une vie, on lui cherche un époux. À l'âge de 16 ans, on lui trouve un prince belge, le prince de Ligne. C'est Louis XVI qui signe le contrat de mariage à Versailles. Et après, sa vie se partage entre la Belgique et Paris. Elle aime bien Paris, son mari aime bien la Belgique, parce qu'elle était plutôt extravertie, lui plutôt introvertie. Lui, c'est un militaire de carrière. Elle, c'était une femme du monde qui aimait bien la fête et tout ça. Les circonstances politiques font que la famille de Ligne doit quitter la Belgique. Et là, ils vont se réfugier à Vienne. Pourquoi Vienne ? Ben, tout simplement parce que la belle-mère est une Liechtenstein. Donc, ils avaient des palais à Vienne. Et là, elle passe une saison d'hiver à Vienne à faire la fête à la cour des Habsbourg. Et puis, elle demande l'autorisation d'aller en Pologne parce qu'elle voulait revoir la famille. Autorisation qui lui est accordée, pour autant que sa fille, Sidonie, qui avait 2-3 ans, ben, reste à la charge des grands-parents, en fait. Et c'est là que sa vie bascule complètement. Elle tombe amoureuse du grand chambellan du roi de Pologne, Vincent Potocki, qui lui-même était marié, qui avait un fils, François. Ils sont tellement amoureux qu'ils demandent le divorce, parce qu'elle ne voulait pas aller plus loin sans être mariée officiellement avec Vincent Potocki.
Oula, mais ça c'est...
Oui, bah, il y avait
terrible à l'époque.
Il y avait des principes, peut-être, à l'époque, mais le divorce était possible. Quoi. Alors là, il faut demander l'autorisation à la famille de Ligne, qui dit non. Il fallait demander l'autorisation au prince évêque, son oncle, qui dit non. Et puis Potocki devait demander l'autorisation à sa femme, qui dit non. La situation est un peu bloquée, mais ils sont toujours autant amoureux. Et là, les malheurs de la guerre font le bonheur des autres. Parce que le prince de Ligne, qui était un militaire assez courageux, au cours d'une bataille, il s'élance à l'attaque des Français et il prend un boulet dans la tête. Ça règle le problème. Elle se retrouve veuve. Alors à ce moment-là, il n'y a plus d'opposition de la famille de Ligne puisqu'ils n'ont plus rien à dire. Il n'y a plus d'opposition du prince évêque parce qu'il se dit qu'il vaut mieux qu'elle épouse un vivant qu'elle reste veuve. Et puis ils arrivent à convaincre la femme Potocki d'accepter le divorce, ce qu'elle fait finalement, pour autant qu'elle puisse éduquer le fils François, son fils François. Ils se marient. Elle devient donc Hélène Potocki. Et là, leur vie se partage entre la Pologne, entre Brody, qui est une ville qui est actuellement en Ukraine, qui est leur propriété, entre Saint-Pétersbourg, parce que la Pologne vit une époque absolument difficile, c'est partagé entre l'Autriche, la Russie et puis la Prusse, donc leurs terres sont un peu partout, il y a des moments où ils ont de l'argent, des moments où ils n'en ont pas. Et au bout de quelques années, ils reviennent à Paris. Là, ils ont pas mal d'argent, ils achètent le château de Saint-Ouen, qui n'existe plus maintenant, mais qui était à Paris au bord de la Seine. Et puis quand elle décède à l'âge de 52 ans, eh bien dans un inventaire, on trouve 40 000 livres. Donc cette dame a collectionné des livres toute sa vie. À sa mort, il y en a 40 000 dans son appartement. Et ce que j'ai oublié de vous dire, mais je vais vous le dire maintenant, c'est qu'avant sa mort, elle se soucie de sa fille Sidonie qu'elle n'a pas revue pendant presque 20 ans. Elle se dit, mais si je décède, elle ne va rien hériter puisque j'ai donné tous mes biens à mon mari. Et comment résoudre ce problème ? Et c'est là qu'elle a l'idée, assez géniale, d'imaginer un mariage entre sa fille et son beau-fils. Alors ça veut dire qu'on recommence les négociations avec les deux lignes, on recommence les négociations avec l'ex-épouse, et puis finalement ça s'arrange, les deux enfants s'apprécient et se marient, et c'est eux qui héritent en fait l'ensemble des biens de la maman et du papa, et entre autres les livres du château. J'ai dit qu'ils habitaient le château de Saint-Ouen, ce château a été racheté par Louis XVIII, qu'il a démoli et en a refait un nouveau à la place, qu'on peut voir encore aujourd'hui, et les livres sont partis à Brody en Pologne. Là, on est autour de 1815, ensuite le château de Brody change de propriétaire, et puis on arrive vers 1808. Et c'est là que notre châtelain, Adolphe Geif, apprend que des livres sont en vente là-bas en Pologne. Et il s'y rend avec un ami, et il achète les livres. Et il les ramène à Oran.
Et il les ramène à Oran, voilà, André Locher. Mais quelle histoire extraordinaire! Mais c'est un périple fou!
C'est un périple fou, et... Bon, il est clair que je vous ai résumé l'histoire de la princesse, mais c'est une vie absolument étonnante.
C'est magnifique. Le chemin des objets et surtout le personnage qui se dessine. Et c'est d'autant plus surprenant que j'aurais jamais pensé qu'effectivement, et pourquoi pas, le château d'Oron puisse être aussi carrefour d'une histoire qui, en définitive, est assez lointaine, mais qui a toute son importance. C'est comme si elle avait fait un legs, bon, sans le savoir, bien sûr, vu que c'est pas elle qui le donne au château d'Oron, mais tout de même, le château d'Oron, il est dépositaire d'une histoire aussi.
D'une histoire, et la dame qui a collectionné ses livres a connu tous les grands de son époque, de Louis XV à Louis XVI, Catherine II de Russie... Joseph d'Autriche, etc., etc.
Quoi. Mais quel destin pour le château d'Oron, André Locher.
Oui, ça permet de raconter une belle histoire, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc nous sortons de cette bibliothèque, parce que la visite continue. Mais c'est vrai que ça, c'est le clou, hein, André Locher, tout de même. Hein. C'est le clou de la visite.
C'est le clou de la visite.
Ah, oui.
On va passer plus rapidement dans
cette vitrine,
il y a d'autres livres...
Et puis, nous arrivons dans la salle de musique.
Salle de musique où on peut... Enfin, où on est attiré par plusieurs choses.
C'est sûr.
Pleyel. Pleyel, 1830 environ. Et vous savez...
Et encore une fois, tout d'époque, bien sûr.
Oui. Alors, toutefois, ils ont des numéros de série, donc on arrive parfaitement à les dater. Et vous savez que Chopin jouait avec des Pleyel. Et celui-ci a été utilisé par Chopin à Paris.
Ben dis donc, décidément, le château d'Oron peut s'enorgueillir de beaux trésors. Hein.
Et là, on retourne un petit peu dans le Moyen-Âge.
Alors oui, et puis il faut dire où nous sommes, c'est-à-dire nous sommes à côté d'une fenêtre, toujours ces murs très larges et impressionnants qui nous permettent bien sûr de juger l'épaisseur des murailles. Et puis vous dites retour au Moyen-Âge parce que, chose étonnante, on l'a expliqué, vous l'avez expliqué avant, au XVIIIe siècle, l'on construit ou l'on place des boiseries sur les murs, c'est-à-dire que c'est des boîtes dans des boîtes, presque, et puis là, une boîte qu'on ouvre, parce que le panneau en bois, vous l'avez ouvert, et qu'y a-t-il derrière ?
Eh bien, il y a le coffre-fort des baillis bernois.
Ça alors ?
Avec son écusson. Vous savez que les révolutionnaires en 1798 ont fait quelques dégâts dans ce château. Ils ont martelé les écussons qui étaient visibles à la barbacane et dans le puits, et au-dessus de la fontaine. Mais ils n'ont pas trouvé le coffre-fort, et là, l'écusson est intact.
Alors, comment on trouve un jour le coffre-fort ? Il faut encore bien l'expliquer. On est donc à côté de la fenêtre, il y a un panneau, voilà,
un
panneau de bois.
Puis, étant curieux, vous ouvrez le panneau, chaque fois que vous pouvez en ouvrir un, vous ouvrez. Et vous voyez, derrière le panneau, ben, le coffre-fort et une partie des peintures qui couvraient les murs de ce salon.
Et donc, les révolutionnaires vaudois n'imaginent même pas ouvrir tous les panneaux.
Il faut peut-être préciser qu'ils ont d'abord vidé la cave.
Ah, et forcément qu'après avoir vidé la cave, ils ne pensaient plus au panneau.
Exactement.
c'est compréhensible. Alors, par contre, chose étonnante, bon, c'est vrai que le coffre-fort, voilà, avec les cuissons de Berne, l'ours de Berne, vous l'avez ouvert quand même.
Oui, oui, d'ailleurs, pour les curieux, on peut toujours l'ouvrir.
Oui, bien sûr. D'accord. Voilà, c'était un coffre-fort.
C'était un coffre d'époque.
C'est incroyable. Vous pourriez imaginer, voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Je ne sais pas trop. En tout cas, voilà, une porte de fer. Là, on l'a compris.
Cana, sérieux.
Mais, donc, salle de musique, on sait qui vient jouer ici. C'était des gens du lieu, c'était des musiciens invités. On en sait quelque chose de ça?
Ce devait être des musiciens invités qui passent d'un château à l'autre, comme les artistes voilà, passent
pour égayer les
soirées. Hein, oui, parce ça. Que je pense que la vie devait quand même être relativement silencieuse dans un château.
Ah oui, alors, on arrive de nouveau, en ayant fait cette boucle, André Le Cher, on arrive dans le grand hall, et puis là, on va aller dans les combles, alors.
Alors, un de nos rêves, ce sera... Enfin, c'est d'ouvrir ces combles au public, parce qu'actuellement, on peut y aller quand nous sommes deux ou trois, mais en groupe, c'est parfaitement inaccessible. Il faut faire attention où on met ses pieds. Faut marcher sur les planches jaunes.
D'accord, parce que sinon, on passe à travers.
Non, vous trouvez plus bas.
D'accord. Ok. C'est superbe à part ça, hein.
Le premier projet, ce serait de rétablir le chemin de ronde et de le rendre accessible, et puis d'ouvrir les anciennes meurtrières pour laisser bien entrer la lumière et surtout pour permettre aux visiteurs de regarder le paysage, parce que le paysage, depuis là, il est très beau, quoi.
Alors là, André Le Cher, vous allez quand même me dire ce qu'on y voit, parce que c'est vrai que pour vous, il y a de l'ordre de l'évidence. Alors, vous passez d'un espace à l'autre, et puis voilà, vous arrivez ici, puis vous dites, ben voilà, le chemin de ronde, etc. Mais moi, quand j'arrive, je suis saisi par l'image. Parce,
oui,
parce que c'est des combles, d'abord, immenses. C'est, je ne sais pas, moi, ça fait combien de haut, ça? Ça fait pas loin de 10 mètres. Non, j'exagère peut-être un peu, mais...
Non, vous n'exagérez pas.
Ah non?
Non, ça fait bien 10 mètres. C'est deux étages de combles. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est des poutres et des espaces vides. Et le long du mur à gauche, bien l'ancien chemin de ronde avec...
Vous voulez dire que là, nous sommes sur le chemin de ronde?
Là, nous sommes sur le chemin de ronde, et si nous avançons un petit peu, nous arrivons dans une des tourelles. Et là, quand le château était attaqué, ce qui heureusement n'est pas arrivé très souvent, ben, ils enlevaient les dalles de pierre ici dans cette tourelle, et on pouvait jeter ce qu'on voulait sur ceux qui attaquaient. C'est donc les mâchicoulis.
C'est les mâchicoulis. Et là, c'est étonnant parce que d'un coup, on se refait un saut dans l'histoire et dans le temps. On arrive, chemin de ronde, mâchicoulis, meurtrière.
C'est le côté Moyen-Âge du château que nous cachons pour le moment, mais qui est toujours présent. J'aime bien venir ici car c'est un des rares endroits où on peut voir... La cour intérieure, le donjon, l'horloge. Évidemment, à partir de 2008, tout le monde la verra depuis en bas, parce qu'elle sera de nouveau visible. Mais là, voilà, jetez un coup d'œil, Edith.
Alors voilà, je passe la tête à travers une toute petite lucarne qui me permet de voir l'horloge à ma droite, et puis surtout cette cour avec cette caractéristique particulière du château d'Oron, c'est d'être construit en rond. Presque m'en faire un cheval, avec à gauche la tourelle. C'est magnifique depuis ici.
Et vous voyez la surface des toits.
Oh là là, mais bien sûr. Et ils sont raides, ces toits, de belles tuiles.
Sommet du donjon, et nous avons encore 10 mètres de poutraison au-dessus de nous.
C'est superbe, cette poutraison.
Magnifique, alors là, magnifique.
Oh là là. Remarquable.
Et là, imaginez, un accès au public, toutes les fenêtres ouvertes, salon de thé.
C'est vrai que ça serait superbe.
Ça serait superbe. Mais d'ici... X années.
Ah oui, X années.
X années, oui.
C'est juste extraordinaire parce que le salon de thé, c'est bien sûr l'image de la délicatesse, d'un certain parfum, d'un certain moment de la journée, d'une certaine dimension. Et vous placez cette dimension-là au sein d'un donjon qui est un autre symbole, qui est le symbole de la guerre, d'une époque lointaine, de murs épais, d'une poutraison remarquable, massive, en même temps, la force. C'est le jeu des paradoxes.
Absolument. Mais le château est un paradoxe. Il existe encore alors qu'il aurait dû être détruit depuis fort longtemps.
Ça, vous aimez ?
Ça, j'aime bien, oui, oui. On peut effectivement dire qu'un château sert à rien, mais ce qui est quand même important, c'est qu'il fait rêver les gens. Mm-hmm. Et si on enlève les rêves, ben, il reste quoi ? Donc c'est pour ça que c'est important de garder les châteaux, et que les gens les soutiennent, et continuent à mettre de l'argent pour qu'ils continuent à vivre. Quoi.
Si vous êtes comme moi et que vous êtes sensible au château, ces grosses boîtes à trésors, ces grosses boîtes à histoires qui parsèment le paysage, alors n'hésitez pas et allez rendre visite au château d'Oron. À deux pas, vraiment deux pas, d'Oron, le Châtel. La semaine prochaine, tout autre chose, ce sera de Caillé dont nous parlerons et de son usine à Brault. Usine de chocolat fort connue et bien au-delà de nos frontières. Pour l'émission de ce jour, ce 20 000 lieues sur la Terre, merci à Didier Rossat pour sa réalisation inspirée, comme toujours, à Mélina Amaru pour son assistana et à vous pour votre écoute attentive. Si vous voulez nous retrouver sur le web, tout simple, une seule adresse, www.espace2.ch, et ensuite vous allez jusqu'à la page 20 000 lieues sur la Terre, où vous pourrez nous écrire vos messages. Merci d'avance. Mais tout de suite, c'est avec Charles Sigel et son humeur vagabonde que vous pourrez poursuivre cette matinée sur Espace 2. Bonjour Charles.
Bonjour et au revoir mon cher Jean-Marc. Et donc à samedi prochain, même heure, même endroit, nous sommes tous pour l'instant sur Espace 2 et il est pile 10h. Et s'il est 10h, cela signifie que le moment est venu de l'humeur vagabonde qui sera, comme à l'accoutumée, une proposition de portrait par et pour la musique. Ce matin, dans une mise en page de Gérald Yestan. Bonjour à tous. J'aimerais esquisser pour vous le portrait de Marlène Dietrich.
Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich bin die Fische Lola, ich lieb ein jedermann. Doch an mein Pianola, da lass ich keinen ran. Ich bin die Fische Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Da will mich wer begleiten, da unten auf dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und freu dem auf Pedal. Lola, Lola, jeder weiß, wer ich bin. Sieht man nur nach mir hin, schon verwirrt sich der Sinn. Männer, Männer, keinen küss ich hier. Und allein am Klavier sing die Teil nicht mehr. Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Ich bin die fesche Lola, mich liebt ein jedermann. Doch an mein Pianola, da lass ich keinen ran. Ich bin die fesche Lola, der Liebling der Saison. Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon. Doch will mich wer begleiten, da unten aus dem Saal. Dem hau ich in die Seiten und treu dem auf Pedal.
Marlène dans L'Ange Bleu, bien sûr, oui, Marlène dans L'Humeur Vagabonde aujourd'hui, Marlène et son cortège, allais-je dire, bien sûr, car la belle créature, on ne peut l'évoquer sans convoquer l'aréopage d'hommes, essentiellement d'hommes, qui l'accompagna, c'est-à-dire Joseph von Sternberg au premier rang, ou Jean Gabin, ou Erich Maria Remarque, ou Yul Brynner, ou Orson Welles, ou Gary Cooper, et combien d'autres, une cohorte de Beautiful People.
Espace 2. Notre adresse internet, espace2.ch.